Rebonjour, bienvenue à cette session de l'après-midi. On va commencer par la présentation de Christophe Sorger que je vais introduire dans un instant. On suivra avec les deux présentations qui n'ont pas été faites ce matin. Et ensuite, on reprendra la session Le paysage de l'open access en France. Donc l'open access, ce n'est pas la peine de dire ici combien c'est important globalement au niveau scientifique. J'ai le plaisir d'introduire cet après-midi Christophe Sorger, qui est le directeur de l'Institut des mathématiques et de leurs interactions au CNRS, et qui est un mathématicien, comme vous l'aurez compris, et qui va donc nous parler des journaux académiques en mathématiques.
Donc, bonjour et merci pour l'invitation à Couperin et à son président, Jean-Pierre Finance. Cet exposé aujourd'hui, c'est un complément de l'exposé sur les épijournaux de ce matin. Donc j'ai de la chance que Claude m'introduit, même si je ne parlerai pas des épijournaux proprement dit. En maths, on fait un théorème et puis après, on montre. Et après, une fois qu'on a démontré le théorème, on montre des exemples d'application. Mais en général, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On fait d'abord les exemples et ensuite on cherche la structuration qui convient pour bien formuler le théorème. Et là, c'est un peu pareil. Ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est juste des exemples de journaux académiques en mathématiques et de voir avec vous comment ça se comporte de manière très concrète. On ne va pas faire des généralités. Donc, les journaux... Ah, maintenant, il faut que je comprenne... C'est aussi bien. j'ai pris comme exemple les Annales de l'École normale supérieure. C'est peut-être notre journal académique le plus ancien. Il est créé il y a 150 années. Actuellement, il est édité par la Société mathématique de France. Comme beaucoup de journaux académiques, ils étaient d'abord plutôt généralistes. Ils sont devenus purement disciplinaires après. Donc, pour les Annales de l'ENS, ils sont devenus... purement mathématiques, en 1900. Ça correspond à une date où on peut facilement calculer les délais, donc ça fait 115 ans. Il y a une autre revue, les Annales scientifiques de la Faculté des sciences, donc fondée en 1887, pluridisciplinaire également, et il n'y a que la branche mathématique qui reste. Les Annales de l'Institut Fourier, fondée en 1949, et plus récemment, on a vu la renaissance du journal de l'École polytechnique. Le journal de l'École polytechnique a été relancé en 2013, mais c'est un journal ancien. Il a été fondé en 1795, je crois que c'est même la plus ancienne revue scientifique française, parmi, et avait été arrêtée en 1939. Et puis, elle a été reprise en 2013. Je vous expliquerai un peu plus en détail comment, dans quelles conditions. Puis, un autre journal qui est un peu différent, qui est le Journal of Computational Mathematics. C'est un journal qui est publié avec la SMAI. La SMAI, c'est la Société mathématique des applications industrielles. Je l'ai pris un peu en complémentaire du premier journal, qui est un journal qui est publié par la SMF actuellement. Alors, quand on regarde ces journaux-là, on voit qu'on est dans une trajectoire. On est à un instant T, et le but pour arriver à aller plus loin, pardon, est évidemment de faire réussir la transformation en accès ouvert. Donc, transformer quelque chose qui est nouveau en accès ouvert, c'est facile, ou disons, c'est plus facile. Transformer quelque chose qui existe depuis 150 ans, c'est une autre paire de manches, et c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. Alors, on va faire un petit excès. On va aller sur les Annales de la Faculté des sciences de Toulouse. Et puis, on va regarder les fascicules. On prend le dernier, premier article. Et puis, quand vous regardez, en haut, article, sur abonnement, il y a marqué mon numéro IP. C'est mon numéro IP à la maison. Donc, je n'ai pas accès. Et que la page suivante, c'est une page abonnement. Donc, on donne le prix. On me dit comment y accéder. Mais il faut que je sois abonné. Alors, c'était tout à fait pareil pour les Annales de l'Institut Fourier jusqu'à récemment. Là, j'ai aussi pris les tomes par tous les tomes. J'ai regardé le dernier. Et puis là, j'ai pris l'avant-dernier article de Pierre-Emmanuel Chaput et Laurent Evin, parce que c'est un des amis géomètres algébristes, donc dans mon domaine. Et puis, est-ce qu'on tombe aussi sur abonnement? Non, c'est plus pareil. Donc, on se retrouve maintenant, quand vous regardez sous article, vous trouvez PDF. Et quand vous cliquez sur le PDF, vous voyez la première page, la page qui décrit l'accès ouvert, et vous êtes devant l'article. Donc, on est devant deux journaux très différents pour l'instant, au niveau de l'accès, mais qui sont assez semblables dans leur trajectoire quand même. Je vous montre ce qui se passe pour le journal de l'école polytechnique, donc récent. Pareil, il n'y a que deux tomes, hein, donc un tome par an. Ça a été fondé en 2014. J'y vais sur la page du tome 2, et puis je vois mon prédécesseur, Guy Métivier. Je clique, je vois l'article, et je vois même la source du tech. Je clique sur l'article, et puis j'arrive sur le papier. Si je regarde un peu ces revues-là, les deux premiers sont sur abonnement et les trois autres sont maintenant devenus accès ouvert au sens sans coût pour l'auteur et sans coût pour le lecteur. Mais quelque part, quelqu'un doit payer. Donc, je voudrais vous expliquer comment, dans notre institut de mathématiques, on essaye de répondre à cette question-là. Et comment on va proposer une trajectoire aussi pour les autres journaux. Il y a beaucoup plus de journaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Il y a les journaux de l'Institut Henri Poincaré, il y a le bulletin de la Société mathématique de France, il y a le journal de l'IHES, enfin, il y a toutes sortes de journaux et journaux sur lesquels on peut travailler. Notre but est de travailler journal par journal. Donc, on commence journal un après l'autre. Et donc, le travail qui a été entrepris en 2014 plutôt, c'est sur les annales de l'Institut Fourier. Alors, comment on fait? Bon, on a une chaîne de production que je voudrais vous expliquer un tout petit peu. C'est des généralités sur des chaînes de production. Je voudrais vous montrer comment on s'y est pris. Alors, avant tout, il y a la gestion du manuscrit proprement dit. Donc, c'est un service éditorial. Ce que propose la chaîne de production de MADDOC, qui est une UMS que nous partageons en CNRS avec l'Université Grenoble-Alpes, la soumission d'un article va se faire à travers un logiciel pour lequel on a plusieurs solutions. Le service que nous avons choisi à l'époque, c'était Open Journal System. C'était janvier 2014 que nous avons mis en place ce système-là. Il y a d'autres services, d'autres solutions possibles pour services. Il y a un logiciel qui est plus adapté aux mathématiques qui s'appelle EditFlow. Et il y a une question sur les épimathes pour laquelle je ne vais pas répondre tout de suite, mais pour laquelle on pourra réfléchir si la partie logiciel éditorial de EpiMath ne peut pas servir aussi pour reprendre cette question-là. Donc c'est une piste pour laquelle il faut travailler. OJS, c'est un système général de gestion éditoriale. Ce n'est pas toujours très adapté pour les mathématiques. Il y a du travail. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a un vrai travail de mise en place. Et il y a un vrai travail, surtout si on veut transférer un journal existant. Là aussi, ça ne se fait pas tout court. Alors après, une fois qu'on a un article qui est accepté, ben on va avoir une version auteur. Mais en mathématiques, on est très difficile pour la version éditeur. Nous aimons beaucoup que ça soit très beau, avec de belles formules, et qu'on a un style par journal. Quand on lit les annales de l'ENS, on sait qu'on est tout de suite dans un environnement qu'on reconnaît, et on connaît quasiment la qualité à partir de la typographie. Et donc, cette typographie fait partie pour nous du journal, fait partie de la publication, et en quelque sorte, il est important pour nous, si on veut convaincre les collègues de faire un pas dans cette chaîne de production-là, ben, il faut qu'on leur propose une solution là-dessus. Et cette proposition, elle passe par un retravail du fichier de LaTeX. Donc, nous ne sommes pas dans des fichiers Word, nous sommes un système un peu plus compliqué, LaTeX. Et il y a une partie mise aux normes qui consiste, pour laquelle on a un service qu'on propose depuis 2015, qui est de la prise en charge de la mise aux normes, enrichissement par métadonnées dans les fichiers et préparation à la publication en ligne. on a trois autres services qui s'ajoutent dans cette chaîne de services. Le troisième, vous le connaissez peut-être ou vous l'avez déjà vu, c'est l'équivalent mathématique de revue.org. Donc c'est cedram.org. Donc une fois que le fichier sort du service 2, il est prépublié en ligne, il est ensuite validé par le comité éditorial et ensuite publié sur cedram.org. Et ces fiches que je vous ai montrées tout à l'heure, hein, les pages internet au début dans les exemples, étaient rien d'autre que me balader sur le site du journal qui sont dessous domaine de cedram.org. Et puis, in fine, la question qui se pose, c'est l'archivage pérenne. Donc, il faut archiver le volume. Alors là, on a un service qui s'appelle numdam.org. Numdam.org, au début, faisait ce que fait Percé. Donc, on numérise des articles anciens, mais on lui a donné quand même la fonction d'archivage tout court, même s'il n'y a plus de numérisation pour des articles qui sont déjà numériques à la base. Alors, pour les exemples que nous avons, on n'est pas obligé d'utiliser tous les services. Par exemple, les annales de la Faculté des sciences de Toulouse n'utilisent que la partie publication. Ils n'ont pas un logiciel de gestion éditoriale proprement dit, et puis ils n'utilisent pas la mise aux normes. Les annales de l'Institut Fourier utilisent la mise aux normes, la publication et l'archivage, et puis un passage au logiciel OJS en cours est en cours, comme je vous ai dit, c'est un peu compliqué, c'est long, il faut faire ce travail-là. Et les deux nouveaux journaux, celui de l'École Polytechnique et du Journal of Computational Mathematics, utilisent l'ensemble des services. Pour aller vite, quand on passe un journal qui est coûtant à un journal qui est gratuit pour l'auteur et pour le lecteur, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd ? Ce qui m'a surpris, en fait, ce qu'on gagne vraiment, c'est immédiatement un demi-poste en gestion. Parce qu'il y avait une demi-poste à Fourier qui ne faisait rien d'autre que gérer les abonnements. Hein, parce que si vous vendez quelque chose, ben, il faut le vendre à quelqu'un, il faut avoir contact avec la bibliothèque, il faut faire les licences, il faut faire la facturation, il faut le faire pas seulement en France, mais aussi à l'étranger, il faut répondre aux particuliers qui posent des questions. Il faut gérer la gestion d'accès par IP. Ben, ça prend du temps et c'est un demi-poste à peu près. Ça a été évalué par un demi-poste à peu près. Bon, quel est le moins ? Évidemment, on n'a plus de revenus des abonnements. Bon, dans le cas de Fourier, c'est un peu particulier parce qu'il y a aussi des échanges de volume. Mais disons, bon, il y a quand même un moins qui est évident. Alors, là, quand on regarde le prix vis-à-vis des revenus et du fait qu'on gagne un demi-poste, plus la prise en charge de la mise aux normes, on arrive à peu près à zéro. Alors, la prise en charge de la mise aux normes, il faut compter à peu près autour de 10 euros par page. Ce qu'on dit, parfois 7 ou parfois 12, ça dépend de la difficulté de la page et ça dépend des partenaires. Ce que nous avons fait ici, et de embaucher quelqu'un. On a fait un test et ce test-là a tout à fait fonctionné dans la mesure où la personne qui est là actuellement en CDD, il gère l'ensemble des mises aux normes pour l'instant pour Fourier aussi pour d'autres journaux. En fait, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un qui fait ce travail-là. De la même manière, qu'est-ce qu'il faut pour vraiment mettre en place un nouveau journal ou un journal ancien qu'on veut passer? C'est au début la partie instance OJS. Il faut l'installer. Nous utilisons le réseau de matriciens chez nous. Donc c'est un réseau d'informaticiens. Donc ça s'est fait de manière centralisée. Le fait d'avoir utilisé qu'un seul logiciel et le proposer pour tout le monde nous simplifie énormément le suivi, la mise à jour. Même si ce sont des instances, le tout est quand même centralisé. Après, pour Cedram, c'est déjà en place, et pour Numdam, c'est déjà en place. Et finalement, au niveau du coût, c'est tout à fait raisonnable de faire ça de manière mutualisée. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Quand on va un peu plus loin, et quand on regarde le fait qu'on a souvent un demi-secrétaire de gestion éditoriale, ça se mutualise de la même manière, une demi-journée par jour, ce que me dit l'éditeur principal du journal de l'École Polytechnique. Et comme ça, pour les mathématiciens, je pense qu'on pourra, au fur et à mesure, passer en accès ouvert, donc gratuit pour le lecteur et pour l'auteur, une bonne partie de nos journaux académiques. Merci.
Donc j'ai vu que là pour le CC, c'est CC non-derivative, c'est ça ? Les Creative Commons, la licence. Est-ce qu'ils sont tous, dans les exemples que tu as montrés, j'avais vu au passage que c'était non-derivative, est-ce qu'ils ont tous la même, quelle est la politique de licence ? Voilà.
Pour l'instant, c'est la même. Là, effectivement, ces choses-là ne sont pas figées. Hein. Donc il fallait bien partir de quelque chose. C'est en discussion. On discute là-dessus en interne. Ce sont des questions, des vraies questions, sur lesquelles il faudra trouver une réponse commune. Actuellement, on a beaucoup de cas particuliers. Il y a beaucoup d'exemples. Il faut qu'on arrive à avoir une politique, disons, un peu commune, mais on ne veut pas non plus bloquer. Le but est d'accueillir et puis d'accompagner aussi longtemps. Et à un moment donné, les collègues seront convaincus par ce que tu proposes. Et je pense qu'à ce moment-là, on est un peu plus loin dans la trajectoire, mais on a encore plein d'années devant nous pour ça.
OK. Merci beaucoup encore, Chris. Ah, pardon. Une dernière question. Réponse courte.
Là, si j'ai bien compris, tu fais appel à du personnel d'une UMS. Donc, c'est un soutien institutionnel. Si tu n'avais pas ce soutien-là, est-ce que tu pourrais le faire ?
Non, c'est ce que j'ai dit au départ. Il y a un soutien institutionnel qui correspond à une mutualisation de services. Je pense que nous sommes actuellement dans l'étape de mutualisation. Parce que nous avons actuellement, pour chaque journal, historiquement, il y avait un poste, parfois un demi-poste, qui était juste pour la gestion du journal, etc. Et ça fait une multiplication et une incohérence. Et finalement, un coût relativement important qu'on ne peut plus gérer. Cependant, le fait d'avoir mutualisé, finalement, réduit de beaucoup. Surtout si on gagne le poste qui gère les abonnements. Parce que ceux-là, je ne vais pas les prolonger et puis je vais les faire glisser dans l'UMS. Dans l'UMS, je pense que par service, il faut compter à peu près une personne, peut-être un peu moins quand ils sont en place. Ça fait 4 personnes. Ce n'est pas énorme. Mais ils peuvent faire l'ensemble du truc. Après, il y a d'autres personnes qui s'ajoutent quand on a un UMS parce qu'il faut aussi faire la gestion de l'UMS. Il faut, comme toujours, donc ça fait quand même plus de personnes. Mais à la base, on passe par ce soutien institutionnel, oui, complètement, oui.
Encore merci, Christophe.